Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite.
Bonjour, bienvenue, nouvelle émission de Hors-Champ, Hors-Champ spécial Jacques Doyon aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de 9 de ces DVD, sous forme de 2 coffrets et sous forme aussi de DVD à l'unité. C'est la première fois que Hors-Champ Cinéma se consacre à une sortie DVD. On est très très content de recevoir Jacques Doyon aujourd'hui. Donc autour de la table pour le torturer pendant une heure, Martin.
Bonjour.
Moi, Charlotte. Et puis à la console de diffusion, Marc, qui va nous accompagner avec quelques extraits de films. Restez avec nous.
Je viens avec l'objet pour te dire que tu me gonfles.
Et puis je t'envoie maman.
Mais j'ai pas besoin de l'envoyer, elle vient très bien toute seule. D'ailleurs, tu l'emmerdes presque autant que tu m'emmerdes moi.
Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est toi qui l'excites contre moi. Tu fais remarquer que quand t'es pas là, ça va très bien entre elle et moi.
Ouais, mais là, je suis toujours là. C'est ça que tu veux dire? Non, revenons à l'objet. C'est très compliqué pour toi d'essayer de comprendre. Je ne supporte pas qu'on tripote mes affaires.
Non, mais est-ce que c'est trop compliqué de comprendre que j'aime pas qu'on vienne me réveiller le matin, et puis surtout pour rien?
Ça n'est pas rien. Chaque fois que tu déplaces quelque chose, je le vois et ça me démolit. J'ai besoin que les choses restent à leur place sans qu'on les fasse danser derrière mon dos, parce que ça m'angoisse. C'est une question de respect du territoire de l'autre. Alors, chaque fois que tu embarques quelque chose, c'est intolérable. Alors, je suis con peut-être, mais c'est pas maintenant que je vais changer. Il faut que tu fasses avec et que tu arrêtes de me gonfler.
Ah, mais je croyais que les choses étaient à tout le monde ici. Je savais pas que c'était sauf les tiennes.
Maintenant, tu sais ce que tu sais peut-être pas. C'est que c'est une méthode de torture, ça, de déplacer les choses dans le dos des gens.
Oui, mais les empêcher de dormir aussi.
Écoute, si tu ne dévastais pas tout, personne n'a envie de t'empêcher.
Ah, non, mais alors là, dévaster, mais dévaster quoi?
Tout.
Mais tu surveilles tout comme un flic! On peut plus bouger ici! Pleure-moi!
C'était donc un extrait de La vie de famille 1985 avec Samy Frey et Juliette Binoche. Jacques Doyon va peut-être commencer par un petit parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce qui est peut-être, enfin ce qui est un malheur, mais peut-être une chance aussi, puisqu'ils vont pouvoir découvrir tous ces 9 films. Vous avez commencé il y a à peu près 30 ans et vous avez fait à peu près 30 films.
Un petit peu moins. Ouais.
Si on compte les films télé.
Ah oui, alors si on compte les films télé, les documentaires, etc., ça fait certainement plus. Ouais. Mm-hmm.
Vous avez commencé, vous avez été monteur, vous avez réalisé des courts-métrages, et en 1973, vous avez réalisé L'An 01, un film sur l'utopie 68art, mais avec 5 ans d'écart, donc ça crée tout de suite une petite distance. Et puis vous avez réalisé une commande en 1974, qui est en 75 un sac de billes, et puis en 74 il y avait Les Doigts dans la tête, qui est votre premier film très personnel et très intime, et dans lequel on retrouve déjà beaucoup de thèmes qu'on va trouver pendant notamment tous ces films sur l'enfance. Et donc ce film Les Doigts dans la tête, qui est un peu particulier dans les 9 films, parce que c'est un film qui fait penser un petit peu à Eustache, qui est un noir et blanc un peu nouvelle vague, et qui est dans un espace un peu différent.
Oui, enfin déjà le noir et blanc nouvelle vague, c'est le noir et blanc fauché.
Oui, hein, oui.
C'est parce qu'il n'y a pas un rond, et parce qu'à ce moment-là, le noir et blanc coûtait moins cher, était pas chic. Voilà. Aujourd'hui, le noir et blanc, c'est très esthétique, c'est très cher, et les personnes n'en veulent. Il n'y a quasiment que Garrel qui peut tourner en noir et blanc, parce que les chaînes de télévision, à part Arte, sont pas derrière. Mais donc le noir et blanc, on n'y a plus droit à ce moment-là. On y avait droit parce qu'on n'est pas un rond. Donc le noir et blanc, il est plutôt cradoc, il est plutôt... Oui, c'était la seule façon de faire des films avec 300 000 balles. Voilà. Donc on était quelques-uns à être dans cette galère-là, et c'était une galère plutôt inconfortable et plutôt très rigolote, évidemment.
Et l'aventure de ce film, comment ça s'est passé? Vous êtes dit...
C'est un film assez... C'est un film amusant pour plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est la première fois où je travaillais véritablement avec des acteurs. qui étaient, je dis bien, des acteurs et pas des comédiens. Sur les quatre, deux avaient un petit peu joué, avaient une petite formation. Les deux autres ne l'avaient pas. Et déjà, ce mélange d'un peu professionnel et pas trop professionnel ou pas du tout, me semblait, c'était pas que ça me semblait bien, c'est pas tellement le mélange qui m'intéressait, c'était le fait que tourner avec des gens avec qui j'avais simplement envie de tourner, donc si j'avais la possibilité de tourner, d'être à peu près eux-mêmes et de pouvoir dire des textes pas vraiment d'eux devant une caméra, tout était bon. Donc l'idée était pas tellement de chercher parmi les comédiens professionnels quels étaient ceux qui me convenaient, mais plutôt d'aller vers ceux que j'avais envie de filmer, voilà. Et puis on s'est beaucoup amusé parce que c'est 5 semaines sans argent, quasiment dans une pièce, et c'était un tournage très amusant avec eux. Alors très amusant avec eux, ça retire pas les angoisses de tourner très vite un film en 5 semaines avec pas d'argent, mais le très vite a fait que on a tout de suite mis au point une espèce de dispositif qui permettait de faire quand même plutôt 10, 12, 14, 16 prises que d'aller très vite et de faire une prise et de se débarrasser de la scène. Donc il y a eu un vrai travail qui m'a amusé, et puis l'amusement supplémentaire était de me dire que finalement je pouvais écrire, parce que pendant très longtemps j'avais voulu être monteur pour assister les gens qui faisaient des films ou qui méritaient de faire des films. Et l'idée de faire des films me paraissait d'une vanité inouïe, et je le pense encore en partie aujourd'hui. Donc cette prétention là à faire des films, c'était pas trop dans ça devait être dans ma tête, mais c'était très 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 mis de côté. Donc je me suis retrouvé avec l'intention de faire un film en demandant à quelqu'un, après donc 7-8-9 années de montage de films documentaires, de films où j'étais à disposition des autres, me dire tiens, si j'y allais, mais n'écrivons pas, parce que écrire quand même c'est trop dur, c'est pas de ma compétence. Et puis heureusement cette personne m'a donné un scénario et des dialogues donc qui me convenaient pas du tout. Et donc un mois avant le tournage, je me suis dit il faut écrire 3 scènes par jour, sinon je ne tournerai pas. Et donc j'ai écrit 3 scènes par jour, une le matin, une l'après-midi, une le soir, et je trouvais ça très amusant de nouveau. Alors l'écriture, c'était plutôt une phase amusante, et le tournage avec les acteurs, qu'est-ce qu'on pouvait à partir d'un machin écrit obtenir le pire ou le meilleur, en travaillant sérieusement plutôt le meilleur. Alors ça. Après, ça ne m'a plus quitté. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de poursuivre jusqu'au bout, voilà.
Mais cela, pas en les faisant improviser. C'était pour vous, c'était.
Non, il y a. C'est un des rares films où il y a des fins de scène qui sont un tout petit peu improvisées. Mais j'ai jamais cru beaucoup à l'improvisation, parce que si vous partez dans l'improvisation comme source de trouvailles avant tournage, en se disant tiens, on a ça. C'est un peu flou encore, essayons de travailler autour ensemble. Ça, c'est quelque chose que je peux concevoir, que j'utilise très peu, hein, mais que je peux concevoir. Mais se dire, alors voilà le thème, il se passe ça, démerdez-vous. J'ai vu, vous vous rendez moins compte de vous, mais à la fin des années 60, c'était monnaie courante, et ça n'est des films qui n'étaient pas du tout intéressants. Il y avait des fragments intéressants au milieu de scènes d'ennui, de radotage, de ratatouillage épouvantable. Donc, dès le début, j'ai su qu'il fallait. Enfin, que je devais écrire et que c'était ça qui me convenait.
Et la multiplication des prises, justement, permet ce travail.
Oui, parce qu'en fait, la multiplication des prises, c'est ce que les comédiens, parfois professionnels, qui sont habitués à faire 2 ou 3 prises, parce qu'ils l'imposent, par paresse, parce qu'ils l'imposent, parce qu'ils veulent vous affirmer leur génie. Parce qu'ils l'imposent, parce qu'ils ont très peur que vous doutiez d'eux. Donc cette volonté de dire, voilà, je suis le plus brillant, je suis le plus fort, comme Pacino, comme Michel Simon, comme Depardieu, comme etc. Je vais vous faire une prise, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, je trouve ça débile. Débile parce que ça donne des résultats généralement médiocres.
Ils l'imposent par contrat ? Ils l'imposent vraiment ?
Non, ils l'imposent par contrat, ils l'imposent parce que si vous tournez quelqu'un qui coûte 5 millions ou 8 millions de francs, enfin je parle en francs encore et pas en euros, disons 1 million d'euros, et si vous coûtez 10 fois moins cher, il y a un rapport de force qui est pas en votre faveur. Donc depuis le début, je pense n'avoir jamais tourné qu'avec des acteurs qui ne valaient pas plus cher que moi ou qui acceptaient de ne pas prendre plus d'argent que moi. Et à partir de là, on peut discuter, on peut travailler ensemble. Alors, c'est pas tous les acteurs. Si vous tournez, je dis au hasard, là, parmi des gens très connus, avec Isabelle Huppert on faisait 16 prises, 8 prises, 20 prises, on ne faisait que progresser. Parce que c'est pas l'idée de la punition, c'est pas l'idée de tu as mal fait, allez, tu vas m'en refaire une ligne, on n'est pas à l'école communale. C'est l'idée de la 16e prise, elle sera peut-être bonne et mieux que ça. Et si elle est vraiment très bien, c'est parce qu'on aura réussi des choses dans les 15 premières prises et parce qu'on aura raté aussi certaines choses dans les 15 premières prises. Et c'est donc la 16e prise, si elle est bonne, c'est bien sûr le résultat de tout ce travail de 15 prises. Donc c'est une espèce d'entraînement ou plutôt de travail de recherche. C'est pas du tout un travail de répétition. Certains comédiens l'imaginent comme c'est la 16e, on a déjà fait 15, alors on recommence une 16e fois. Non, on recommence pas, on poursuit. On poursuit parce que finalement, on a trouvé des choses, on a mis de côté des choses qui ne convenaient pas, on a trouvé un peu des choses, on essaie de pas trop les fatiguer, puis il y a bien une prise où tout à coup, on va y arriver et vous allez arriver tous ensemble, parce qu'il faut aussi synchroniser des acteurs, parce que l'acteur qui vous impose sa prise, moi j'ai jamais connu ça, mais je n'entends parler que de ça, ça veut dire que le partenaire en face, s'il fait pas le poids, on s'en fout. Il ne compte pas. C'est quand même un truc de physique où tout à coup il y a 2-3 courbes et il faut que les courbes se rencontrent. Alors vous pouvez avoir un acteur formidable dans la prise 14, mais le partenaire ou ses partenaires sont un peu absents. L'ont regardé, l'ont admiré, on s'est dit c'est un acteur vraiment formidable. j'arriverai à faire ça. Bon, et ça devient une mauvaise prise. C'est pas une bonne prise. Donc c'est encore une fois pas une répétition pour torturer les gens et pour les humilier. C'est parce que à force de travail, une fille comme Isabelle Huppert le comprend très bien, elle peut faire 3 prises dans certains films certainement, mais on a fait une moyenne de certainement 16, 18, 20 prises sur un film que j'ai fait avec elle, s'appelle La Valence d'une famille, avec Béatrice Dalle, qui était magnifique aussi. C'est parce que on ne faisait que progresser et on s'arrêtait. Alors, ce qui m'amuse assez moi, c'est d'essayer d'atteindre cette prise là qui me paraît convenir très 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 bien, voilà, et parfois mieux. Et puis d'en refaire une ou deux derrière pour se dire tiens, celle qui convient bien, elle est parfaite, est un mot exagéré, mais enfin de ce côté-ci, on va essayer de lui redonner un peu de tremblement, un peu de mouvement, un peu d'imperfection. On va essayer de faire quelques prises derrière, une ou deux ou trois, pour savoir si on pourrait avoir ce sentiment qu'on a eu dans la très bonne prise et de lui redonner une espèce de vie et une espèce de sentiment d'apprentissage plus grand. Donc je peux pas imaginer de tourner moins de prises. Mais je ne peux pas imaginer non plus qu'un pianiste irait en concert sans avoir travaillé 6 heures par jour ou 5 heures par jour. Un pianiste ou un footballeur ou enfin qui on veut, un danseur, je veux dire. Donc se dire je fais un film deux fois par an, je fais un film et j'arrive, manque en entraînement terriblement, comme nous les acteurs, comme moi-même d'ailleurs, et puis tout à coup dès la première prise ça va être ça ou la deuxième prise. Pareil, une utopie et une bizarrerie totale. Il suffit de voir les films d'ailleurs. Regardez même la télévision ou au cinéma, regardez les films. On voit bien des acteurs qui ne se renouvellent plus du tout, du tout, du tout, et qui sont plutôt parfois à 50 ou 60 ans, nettement moins bons qu'ils l'étaient à 25. Mmh. Et je ne vais pas citer des noms parce que la liste est longue.
Et votre expérience de monteur peut-être a eu une incidence sur ce...
Oui, mais l'incidence inverse de celle que vous pensez. C'est-à-dire que généralement, quand on a fait du montage, on a tellement découpé, on a tellement trouvé la prise au montage qui n'était pas trouvée au tournage, en prenant des petits bouts de certaines prises de gauche et de droite.
C'est une torture.
Qui fait que finalement, c'est pas une torture, mais quand vous arrivez, ayant fait du montage, après avoir tripoté toutes ces prises pendant si longtemps, vous dites, si je tourne, enfin moi je me suis dit, si je tourne, ça sera live. Ça sera la prise 3, jamais. Ça sera la prise 16, ça sera la prise 18, ou ça sera la prise 24. Mais on ne tripatouillera pas d'une prise sur l'autre. On ne passera pas de l'une à l'autre, parce que c'est ce qui se fait aussi en radio, c'est ce qui se fait aussi avec les meilleurs pianistes, violoncellistes. Mais enfin, les très grands, souvent, ils choisissent une prise. Hein,
et on le perçoit parfois.
Et on le perçoit parce que tout à coup, vous sentez que ce n'est pas le même mouvement, qu'il y a un mouvement qui est contrarié. Il y a quelque chose à l'oreille qui peut vous chiffonner, comme dirait ma mère, alors que finalement, il vaut mieux des imperfections, mais un mouvement, et dans ce mouvement, des petits mouvements qui sont souvent cohérents, que de se dire allez, un petit bout là, et puis après on prend le petit bout, etc. Et on a une prise qui paraît où on a les meilleurs moments, mais qui a une prise qui a pas une vie intérieure satisfaisante, je sais pas comment dire,
qui est un truc
un peu monstrueux qui paraît tout à fait bien, et si on la regarde si on l'écoute de près, c'est pas ça. On retrouve une vie fausse, je sais pas, une vie artificielle, voilà.
C'est ce que Philippe Garrel appelle le bain juste, et oui. Il est dans un des bonus dans la vie de famille, et il explique souvent justement à propos de ça que l'importance d'une prise, c'est que le bain soit juste, et il faut surtout pas prendre des bouts bons et les accoler, puisque tout ce sera faux.
Alors lui fait une chose invraisemblable pour moi, que je peux pas comprendre, qui marche dans certains de ses films, c'est une prise. Alors c'est pour des raisons d'économie souvent, mais aussi parce que ça l'amuse, je crois. Et alors ça met effectivement les comédiens, ils savent qu'ils ne peuvent pas se rattraper aux branches. Alors, tout à coup, ça les met dans un état dans une intensité d'avant-jeu, là, d'une espèce de force, d'obligation à réussir la scène. Enfin, et voilà, une espèce de machin sans filet. On passe sur la corde, là, très raide. Et si on se casse la gueule, on se casse la gueule. Et c'est réglé une fois pour toutes. Alors, ça vaut avec certains comédiens, ça vaut. C'est évidemment, moi, les gens savent qu'ils vont partir pour un grand tour. Alors la première scène,
il
se chauffe très doucement. Hein, bon voilà, mais ça me va aussi parce que moi, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. C'est pas parce que j'écris la scène la plupart du temps que je sais ce qui va se passer. Alors j'aime bien cette idée de découvrir la scène et de découvrir autre chose que ce qui est écrit parfois, parce qu'il y a ce qui est écrit, et puis il y a peut-être qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui est écrit, et puis il y a qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce qui est écrit, etc., etc. Donc ça fait que on pourrait rester une vraie punition, ce serait de se dire voilà, pendant 3 mois vous allez travailler sur cette scène-là, uniquement sur cette scène-là, comme des vieux spécialistes du Talmud ou de voilà. Ça me, je serais pas contre, je pense que ça effraierait beaucoup de gens, et moi ça m'amuserait assez.
En tout cas, ce ne serait pas du tout un procédé de terreur, parce que que vous décrivez sur la prise unique peut effectivement marcher très bien pour certains comédiens, et pour d'autres, les inhiber complètement en les terrorisant.
Oui, c'est pour ça que moi, ça ne me convient pas du tout. Je n'ai jamais rien trouvé en une prise, et j'ai jamais, exceptionnellement, je ne pense pas qu'il y ait... Il y a peut-être dans les, je sais pas, 20-25 films là, de cinéma que j'ai fait, il y a peut-être 2-3 fois une première prise de montée, mais dans des choses... un peu dangereuse pour l'acteur, ou des moments où de grande violence, enfin je sais pas, des choses qu'on peut pas renouveler 18 fois. Sinon le travail, surtout, enfin ce travail s'explique parce que ce sont des plans séquences, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est des prises qui durent 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et donc il y a un travail qui se fait sur la durée. Si effectivement dans un cinéma très classique, enfin plan séquence est devenu très classique aussi, si on décide de découper énormément et de donner des petites nuances différentes à chaque fois, alors là c'est pour le montage, la scène se fera au montage. Pourquoi pas, moi ça me paraît une entreprise de paresse, et alors là je comprends que les comédiens aient envie de retourner au théâtre, parce que là je vois pas s'il s'agit de faire 12 nuances différentes ou 6 nuances différentes en 6 prises, et puis des gros plans, et après les plans un peu, les plans américains, puis après les plans larges, puis après bon... Si on fait tout sous toutes les formes...
Comme à Hollywood, avec les stars et les soft focus.
Oui, ça donne parfois des films pas inintéressants, mais c'est pas comme ça que les grands cinéastes ont tourné. Enfin, de Wells à beaucoup d'autres, ça ressemble pas beaucoup à ça. Ça peut être découpé, le cinéma, voire le cinéma muet, mais c'est peut-être ce qui a le plus vieilli du cinéma muet quand même. C'est l'extrême découpage du cinéma soviétique quand même, soviétique russe, enfin soviétique, oui, à ce moment-là aussi, encore... ça a ses limites quand même de ce découpage, de faire dire en fonction de ce qu'il y a devant, de ce qu'il y a derrière, de tout faire dire à une image grâce au montage. Ça me paraît, ça donne des résultats prodigieux, et c'est aussi démodé aujourd'hui.
Enfin, c'est un cinéma du discours justement, où l'acteur est en quelque sorte instrumentalisé.
Oui, absolument. Le metteur en scène sait parfaitement ce qu'il veut faire. Il est au service d'une conviction, d'une idée. Moi, je sais. J'ai, en gros, quand je commence une scène, j'ai pas d'opinion. Voilà, les gens n'ont généralement pas. Quand ils font semblant d'en avoir, généralement, c'est catastrophique. Donc, essayons de savoir, voilà, ces mots-là, ce machin-là, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas parfois des choses. C'est pas des choses très, 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 très difficiles, très confuses. Juste essayer de préciser ça un petit peu pour que la musique soit vraiment juste.
j'ai l'impression que vous avez dit plusieurs fois amusé, et là vous parlez d'une, enfin en gros d'une envie de surprise, si on peut appeler ça une méthode. Je ne sais pas si la surprise c'est une méthode, mais en tout cas, et le jeu justement c'est quelque chose qui est dans tous vos films, évidemment dans les films de petite enfance, mais qui est aussi dans les films avec les adultes où eux aussi prennent part au jeu, et notamment dans la vie de famille. Il y a le jeu du film dans le film qui va lier le père à sa petite fille, puisqu'il le père est divorcé, ou enfin on ne sait pas s'il était marié, mais en tout cas il fait une sorte de virée le week-end avec sa petite fille, et là elle écrit des petits scénarios et il commence à les mettre en scène, et puis peu à peu à s'intéresser de moins en moins à la fiction de sa petite fille, mais de plus en plus à sa petite fille, et presque, ça fait presque un côté cinéma vérité. On peut peut-être écouter d'ailleurs un extrait avant que vous répondiez de La vie de famille, où la petite fille répond à son père.
Tu m'as toujours appris à garder la distance. Avec toi, j'aurais peut-être préféré que non. Maintenant, c'est toi qui veux plus la distance. Mais c'est trop tard. Parce que la distance, je veux la revoir avec les autres. Et pas avec toi. Parce que toi, tu me fais peur. T'es tellement renfermé qu'on croit toujours voir ton dos. Surtout quand tu souris. T'aimes bien séduire, mais pas être emmerdé. Et je suis comme toi. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend si mal. Mais surtout, t'en fais pas. C'est pas grave. Je te comprends bien. Maintenant, je veux dormir. Les passagers du vol Madrid-Marignane sont invités à se présenter à leur lit pour s'y reposer.
C'était donc la petite Mara Goyer, la fille de votre scénariste Jean-François Goyer pour La vie de famille, et qui parlait par caméra interposée à son père. Parce que c'est un père, le problème de la communication et du rapport entre enfants et parents extrêmement complexe dans vos films. Et ce qui m'a surpris en les revoyant, c'est que parfois j'avais l'impression que c'est des films de groupe et de bande où il n'y avait que des enfants. Et en fait, il y avait toujours au moins un départ avec des adultes et une sorte de révolte contre l'adulte qui lançait le film.
Oui, ils ne sont pas très très présents, les adultes, parce qu'en fait, c'est pas le... C'est pas le sujet de je sais pas quoi de d'investigation quoi. Si j'ose dire, il me semble qu'on les a tellement filmés les adultes, on a tellement peu souvent filmé les enfants, qu'il me semblait que ça valait le coup d'y aller un peu plus. C'est la mauvaise raison, ça, la raison c'était que ça m'a, c'est qu'il y a souvent plus de enfin, du côté de la richesse, là, de l'immensité à filmer, des surprises, de grandes vérités à trouver, c'est plutôt du côté des enfants et quelquefois des femmes que des hommes faits, que des hommes mûrs qu'on peut le trouver. Quand on tourne avec des enfants, moi je n'ai aucun souvenir d'un ratage quelconque, en exagérant, en étant peut-être un peu vanité, avec des enfants. J'ai pas le souvenir que là, sur ce film-là, je suis déçu par cet enfant-là. C'est toujours, que ce soit les enfants du sac de Bill, les enfants de Ponette, l'enfant de la Drôlesse, les enfants, etc. Donc de ces 8-9 films, les enfants sont toujours, pas au-dessus de ce qu'on espérait. On espérait tout. Mais on n'est pas loin de ça toujours. Avec les adultes, on peut tout espérer, bien sûr, mais il y a des mauvaises rencontres, je veux dire, dans tous les films. Il n'y a pas un metteur en scène qui ne vous dira pas hors micro qu'il y en a vraiment chié avec 3, 4, 5 acteurs sur quelques films. Et en fait, peut-être que c'est en partie sa faute, hein, bien entendu, mais c'est plus raide un acteur. Enfin, un acteur homme, c'est beaucoup plus raide. Hein. Et ça a une petite surface et c'est habitué, c'est une petite surface de jeu, enfin, un peu comme au football, ça joue là, ça a sa place, et ça veut pas aller beaucoup plus loin, et ça n'ose pas trop s'aventurer, en partie parce que le public aime plutôt les voir sous ce maillot-là et pas sous un autre maillot, pour des tas de raisons, en partie parce qu'on leur a pas appris à montrer des sentiments, alors que finalement le cinéma et la comédie c'est un peu ça, c'est comme essayer d'exprimer des choses. Si effectivement du côté de leur éducation dès enfants on leur a demandé de ne pas exprimer des sentiments comme une fille, ces pauvres garçons vont être un peu empruntés, alors pas tous bien entendu, mais on peut s'y faire. Moi on peut parfois ça peut se passer très 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 bien évidemment, mais le risque entre tourner avec une enfant de 4 ans qui n'a jamais tourné,
comme c'était le cas sur Ponette,
et tourner avec quelqu'un qui a trop tourné et qui est numéro 1 ou 8 parade, je dois dire que moi, je sais que le moindre risque, il est du côté de l'enfant. Il est du côté de l'enfance. Là, je sais que je vais pas me bagarrer. Je sais que ça va pas être facile. Je sais que tout est à trouver et qu'on va certainement trouver des chez cet enfant. Avec lui, grâce à lui, en travaillant ensemble, on va travailler et on va s'amuser à travailler, et on va trouver des choses. Avec des acteurs adultes, moi, je suis obligé de reconnaître que 3-4 fois, ça s'est très mal passé.
Mais du coup, mettre l'un en face de l'autre peut être intéressant et élargir le terrain de l'acteur.
Ben, c'est intéressant parce qu'un enfant rend un acteur adulte meilleur presque à tout coup. Enfin,
c'est ce que dit Richard Angonina dans le bonus d'ailleurs du Petit Criminel.
Oui, parce qu'il est arrivé un petit peu raide, il sortait d'un film classique, si j'ose dire, et tout à coup, il est arrivé avec son savoir-faire. Avec un enfant n'a pas de savoir-faire, c'est quand même sa grande force. Alors il va faire, mais sans ce truc, sans ces machins, sans ces béquilles.
Donc vous
habituelles,
avez vous aussi un instrument de déroute. On parlait de Philippe Garrel qui dit vous n'avez qu'une prise, donc démerdez-vous, faut que ce soit la bonne. Vous, l'instrument de déroute, c'est peut-être de mettre un non professionnel, par excellence, un enfant.
Il me semble que quand il y a des adultes et des enfants, il me semble que le meilleur assistant et du comédien professionnel et de moi-même, c'est l'enfant. Il me semble qu'on a là tous les deux quelqu'un qui va nous rendre meilleurs, qui va rendre meilleurs. Richard, il va beaucoup mieux après quelques jours, parce qu'il commence à se rendre compte que c'est pas ces vieux trucs d'illusionniste, c'est pas ce qu'il a appris à faire, c'est pas ça, mais il y a des trucs qui peuvent pas passer, parce que l'enfant va trouver ça...
risible.
Pas loin de ça. J'avais un mot qui était un qualificatif qui était pas loin de ça, mais un peu risible, oui. Donc il y a des choses qui sont un peu risibles qui peuvent passer à force de pas très attentif d'un film sur l'autre. On est habitué à voir des espèces de machins qui sont un peu comme des clichés dans la façon de jouer. Et tout à coup, on le regarde plus. En étant, enfin, moi, il y a des choses qui m'amusent au cinéma, par exemple, c'est de voir. on parle pas exactement des enfants là, bien sûr, mais. Tu vois, par exemple, au cinéma, on raccroche souvent le téléphone. Et au cinéma, on voit les gens qui regardent le téléphone. On vient de le raccrocher, ils regardent donc, on suppose, je sais pas quoi, une espèce d'image virtuelle de la personne qui vient de le raccrocher. Bon, ça fait rire. Bon, alors, ce genre de pitrerie, c'est énorme. Ces gens aussi, alors qu'on commence à voir, d'ailleurs, parfois il y a des choses grotesques au cinéma, qui me paraissent, moi, grotesques et à pas mal d'ailleurs, et qui finissent par arriver dans la vie. Donc, par exemple, c'est les gens qui pensent. En se pinçant au-dessus du nez là, en disant voilà, je réfléchis très fort, vous allez bien le remarquer, donc je vais me pincer là, voilà, au-dessus le petit bout de peau qui se trouve au-dessus du nez.
Certains le font.
Et dans la rue, maintenant, on commence dans les cafés, etc., vous commencez à voir des gens qui le font. Vous dites, mais enfin, c'est aberrant qu'une chose aussi incroyable puisse se faire. Alors, c'est pas ça, mais enfin, un enfant. Il nettoie vraiment beaucoup un acteur. Il le permet d'être ce qu'il était au mieux au début. Il a peut-être progressé. Peut-être que certains comédiens sont meilleurs à 30 ans qu'à 20 ans, meilleurs à 40 ans qu'à 30 ans. Mais plus souvent, ça s'inverse un peu. Alors, en tous les cas, prendre ce qu'il y a de mieux chez lui et effectivement retirer des choses qui sont un peu risibles, comme vous dites. Oui.
On parle beaucoup des enfants, mais il y a aussi les adolescents. Et je pense à Judith Godrèche dans La fille de 15 ans, puisqu'on sait que Judith Godrèche a ensuite continué à tourner.
Juliette Binoche aussi, d'ailleurs, qui est un de ses premiers rôles, La vie de famille.
Exactement. Aussi, alors, comment ça se passe avec des gens qui, quand même, là, sont sur. On employait des métaphores de football, peut-être jouent déjà un peu personnel. À ce moment-là.
Oui, c'était les je pense qu'il fallait tourner avec Judith Godrèche ce film La fille de 15 ans parce qu'elle était elle avait une singularité que je trouvais nulle part dans mes recherches. Donc elle était la fille idéale à refaire le film, je le referais avec Judith Godrèche évidemment. Mais il y avait un jeu un peu perso, c'est vrai que moi en plus qui m'a trouvé en face par économie parce que je m'étais très mal entendu avec un
oui,
acteur qui ne souhaitait pas le faire. Voilà, je joue le rôle. Bon, je joue. Enfin, je fais ce que je peux. en face, je dois dire qu'avec Dominique Lafin, quand j'ai fait la femme qui pleure, là, je pouvais jouer vraiment avec Dominique Lafin, parce que Dominique Lafin, elle m'attirait vers elle. Elle essayait d'obtenir quelque chose de moi. Et moi, en plus, je me débrouillais peut-être pas si mal que ça, parce que je m'étais rendu compte que comme acteur, je faisais pas le poids, mais comme metteur en scène, étant à l'intérieur de la scène, alors c'était un peu amusant. C'est-à-dire que je pouvais répliquer plus vite, je pouvais supprimer une réplique de façon un peu vicelarde. Je pouvais, voilà. Si j'étais seulement acteur, j'étais non inventif à désespérer. Mais si j'étais aussi un peu metteur en scène à l'intérieur de la scène, alors je me débrouillais un peu. Voilà, il y a du jeu. Voilà. Avec Judith Godrèche, j'ai jamais pu jouer avec elle. Donc c'est vrai que j'ai découpé un tout petit peu plus, et il y a des chants et des contre-chants que je ne suis pas trop habitué à faire, parce que tout à coup, il me semblait qu'il fallait commencer avec Judith et lui demander de quitter le champ pour que je puisse essayer de faire ce que je pouvais. Donc,
ça marche très bien quand même dans ce film,
non, non,
puisque justement, vous jouez le rôle du père de son petit ami, petit ami, c'est Melville Poupeau, qui va passer quelques temps en vacances avec eux dans une villa et qui lui dit qu'il l'aime, enfin, ou qui essaye de...
Je le dirais plutôt à l'inverse de son point de vue, qui est quand même le point de vue le plus intéressant toujours, c'est son pari absurde et formidable, c'est de dire à ce jeune garçon qui est Melville Poupeau, elle ayant 15 ans, lui n'en ayant pas plus, voilà, le regard de ton père sur moi, je le déteste, je le vomis, ce qui est peut-être pas tout à fait la vérité, c'est ce qu'elle prétend du moins, donc je vais le séduire pour m'en débarrasser. Quand je l'aurai séduit, quand il rampera à quatre pattes comme un animal ou comme un dessin de Bruno Schulz, par exemple, alors à ce moment-là, il n'existera plus et on pourra de nouveau exister ensemble vraiment très fort. Mais il faut que je me débarrasse de lui. Et pour me débarrasser de lui, il faut que je le séduise. Et il est absolument, en gros, mûr pour ça. Voilà. Je lui plais assez. Elle ne dit pas... moi, il me plaît peut-être pas mal.
C'est là où c'est un peu un jeu de liaison dangereuse.
Voilà, là, c'était la partie qui m'intéressait dans le film, bien entendu. Enfin, la partie, tout m'intéressait, mais enfin, le film partait de ce jeu étrange et de cette proposition étrange de cette fille.
De même que dans La Drôlesse, la petite fille qui est enlevée. Par un jeune homme qui est un petit peu, dont on ne sait pas trop s'il est un peu débile, léger.
Débile me paraît un petit peu fort, mais enfin, c'est un type qui était
simple.
Oui, qui a tellement vécu à l'écart, qui a tellement peu été aimé ou pas du tout été aimé, qu'effectivement on se demande où il en est. Enfin, il y a un vide affectif et épouvantable, donc à partir de là, débilité convient pas, mais c'est de cet ordre-là. Enfin, je sais pas. Mais...
Et dans La Drôlesse, on voit bien que la petite fille est partie prenante de l'enlèvement. Enfin, elle a peur, mais elle veut quand même. Et puis elle recrée vraiment un petit ménage.
Oui, et on se demande si effectivement, enfin, supposer qu'un mot adulte signifie quelque chose. Si des deux, la plus adulte n'est pas elle. Enfin, c'est elle qui a l'initiative de quasiment constamment. Le garçon elle doit avoir 11 ans, le garçon a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Le garçon est débordé totalement, presque toujours. Enfin, et ça, c'était aussi. C'était pas un parti pris artificiel à faire. C'était que. Il y a ce fait divers qui revient souvent, mais il y avait un fait divers qui ressemblait étrangement à ça, où une enfant avait été enlevée par un type qui ne l'avait strictement pas violée, et avec qui elle avait passé 5 mois dans un grenier. Et au bout de 5 mois, elle était sortie en disant il m'a fait peur, j'ai eu peur tout le temps, etc. Bon, ça tenait pas la route, ce mensonge. Bon. Donc, évidemment, l'enfant, si elle avait voulu partir, c'est parti au bout de 2 jours, de 5 jours, 8 jours, parce que le type n'était pas là en permanence, il était dehors, il cherchait. Bon. Donc, on est devant une espèce d'énigme, ou devant un grand point d'interrogation. C'est quoi cet enfant qui a été vraiment enlevé? Qui prétend avoir eu peur pendant 5 mois. Pendant 5 heures, je veux bien, pendant 5 jours, peut-être, pendant 5 mois, ça ne va pas. Alors, c'est amusant de se dire qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, vous trouvez devant ce point d'interrogation et vous essayez d'imaginer la situation, mais sans trop savoir si au bout de cette de ce machin, de ce scénario, de ce film deviné, si vous avez rencontré d'un peu plus près le fait divers. Peu importe d'ailleurs, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée et je n'ai pas ensuite été interrogé. L'enfant pouvait demander alors ça ressemblait à ça ou ça ressemblait pas à ça. Je m'en fous, ça pouvait peut-être bien ressembler à ça.
Oui, sachant qu'il y a quand même dans La Drôlesse, donc film de 79, il y a quand même la scène, quasiment la scène finale, c'est une reconstitution.
Devant les policiers, oui.
De l'enlèvement. On ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit d'une reconstitution de l'enlèvement et puis on les voit dehors, on n'est plus du tout dans le huis clos. L'endroit où la petite fille a été enlevée.
Dans le grenier, oui.
On n'est plus dans le grenier et ils ont des gestes assez tendres. Et puis ensuite, on a un plan, on s'écarte, on a le contre-champ avec les policiers. Et là, il y a un effet très, très fort.
Et les gendarmes demandent de rejouer la scène. Ils disent non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous n'êtes pas allé aussi gentiment.
Et en fait, ça ne s'est pas passé aussi gentiment que ça. Mais ils ont ces deux-là un tel... Il y a un lien qui les unit qui fait qu'ils ne peuvent... Enfin, ils ne peuvent pas jouer la violence qu'on leur demande parce qu'ils en sont tout à fait incapables. Donc, oui, c'est vrai qu'on leur demande de jouer quelque chose qui est de l'ordre du presque violeur à la pauvre enfant kidnappée. Alors qu'évidemment, le film est pas là du tout.
Alors que c'est presque l'inverse, puisque c'est elle qui lui demande de lui faire un enfant dans le grenier.
Mais est-ce que justement ça résume pas en quelque sorte, enfin, que ce soit volontaire ou non, votre façon de tordre les clichés sur ce qu'on peut espérer entre des relations, par exemple, de pouvoir entre enfants et adultes ou entre adolescents et adultes.
C'est pas tellement pour faire montrer des espèces de contre-clichés ou pour faire le malin ou pour faire l'original, c'est juste parce qu'il me semble que c'est ça qui arrive et qui me paraît le plus juste à écrire, le plus juste à jouer. Et je me dis pas, tiens, voilà un joli cliché, on va s'amuser. Ah, c'est juste, il y a une situation qui n'est pas compréhensible, la version policière n'est pas satisfaisante, elle est invraisemblable. Et donc on se retrouve devant cette chose évidente qui est que la réalité, elle est souvent bien plus forte et bien plus surprenante. Enfin, la réalité, même si elle est un peu inventée, la mienne, elle est à tous les coups plus chaque fois que vous entendez des histoires qui paraissent invraisemblables, qui sont des histoires, vous dites, mais c'est quand même pas croyable. Bon, ben, c'est à partir de là qu'il est plus facile de travailler. C'est quand tout à coup, ça dit des choses beaucoup plus fortement, beaucoup plus justement, et vous êtes là dans la vérité. La recherche, c'est pas d'aller contre le cliché, la recherche, c'est d'aller du côté de la vérité. Enfin, c'est un peu banal à dire, mais ça ressemble à ça quand même. Ouais.
Mais la petite Mado dans La Drôlesse, finalement, ce qu'elle recherche, est-ce que c'est pas un regard, puisque quand lui construit une sorte de fausse caméra qu'il place au-dessus, elle regarde ça un peu fascinée, d'abord effrayée, puis elle s'approche, et on comprend que sa mère là-bas, plus ou moins, une chose comme ça, et que dans ce grenier, si elle reste aussi normalement, c'est que pour la première fois, peut-être, elle a regardé, elle regarde quelqu'un.
Et évidemment, non seulement elle a regardé, mais on suppose qu'elle a regardé avec un peu de d'affection et, on va dire, d'amour, qui n'est pas un mot faible, mais oui. Oui, c'est absolument ça. Là, c'est vraiment de laisser pour compte, voilà. C'est d'un côté comme de l'autre, c'est une espèce de rattache total de d'enfance, enfin et donc ces deux-là se retrouvent assez naturellement, évidemment.
Du coup, le huis clos, qui est une figure un petit peu de vos films, où justement on met en contact des regards, est particulièrement important là, ou dans Le Petit Criminel, où il y a beaucoup de scènes dans la voiture, qui permet justement le déploiement d'une parole, de regard, et enfin peut-être un temps qui est porté à l'enfant.
Oui, on m'a toujours beaucoup reproché cette histoire de huis clos là. D'ailleurs, dans le générique, j'entendais nombrilique là, une espèce d'attaque de nombrilistique, absolument. Moi, le seul sujet d'intérêt, c'est l'intime, c'est l'intimité. Donc, si vous en mettez 45 sur scène, Savary, ça sera jamais du côté de l'intime. Ce sera du côté des Folies Bergères, ce sera du côté de ce que vous voudrez, mais ça peut être intéressant, ça peut être amusant, ça peut. Mais vous pouvez pas, dans le temps d'une petite nouvelle, parce que c'est ça le cinéma, c'est 1h30, 2h, vous avez un temps très court, vous pouvez pas vous attarder avec 50 personnages et aller très loin. Alors, oui. peut-être que tout le théâtre que j'aime ou la littérature que j'aime, c'est des gens qui essaient de tourner autour du pot, autour d'eux-mêmes, je sais pas, ou autour de l'autre.
Comme
l'autre,
Bergman, par exemple.
Ah oui, Bergman. Alors, on gonfle pas trop Bergman avec le huis clos. Je sais
parce
pas pourquoi,
qu'on y trouve parfois une espèce de métaphysique.
Oui, voilà. Alors, Bergman, c'est vraiment métaphysique. Moi, j'aime beaucoup cet homme-là, enfin, le travail de cet homme-là. Je connais pas l'homme, enfin, si, je le connais un peu puisque j'ai vu ses films. Non. Mais bon, j'aime beaucoup le travail de cet homme-là. Mais tout à coup, on l'a pas gonflé avec des mots comme huis clos, hystérie. Le travail de Shaw, par exemple, c'est infiniment plus historique que le mien. Je veux dire, si on regarde Phèdre, c'est de l'hystérie totale du début jusqu'à la fin. On dit admirable, on dit chef-d'œuvre, on dit jamais hystérie. Moi, j'ai fait 28 films. Il y a des scènes tendues, il est vrai, mais j'ai jamais fait des films où toutes les scènes soient tendues, comme dans le
Phèdre
de Shaw.
Peut-être du fond du cœur, c'est le film plus où l'intime est
vraiment
porté.
Oui, mais parce que du fond du cœur, c'est un film de 5 heures qui est resserré pour faire un film de cinéma. C'est un film de télévision de 12 fois 26 minutes, qui était plutôt 12 fois 30 minutes. Et donc, c'est tout à coup quelque chose qui est réduit, qui est réduit à 2 heures. Donc, j'ai eu tendance à garder effectivement la partie la plus intime, mais enfin, ce qui me paraissait voilà, ce qui se jouait entre ces deux-là, mais strictement entre deux, donc comme une espèce de partie de tennis. Mais on peut dire aussi alors qu'une partie de tennis, ils sont deux seulement sur un court, c'est pas un peu nombrilistique cette histoire-là.
On va peut-être écouter un petit extrait qui va justement faire un contrepoint au côté réaliste, psychologique et hystérisant qu'on pourrait vous reprocher.
Tu m'attrapes un souvenir ?
J'ai pas envie.
Oh là 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 là, je déteste les enfants qui ont pas envie. Je déteste les enfants qui se plaignent. Pourquoi t'es vivante ? Pour avoir envie de tout. Et moi, c'est sûrement pour ça que je suis revenue. Parce que je veux que tu me fasses une promesse. Je veux plus que tu pleures, que tu te plaignes tout le temps. Je veux pas d'une enfant triste. T'as peur de la vie, ma fille ?
Non.
Oh non. Oh non, la vie, c'est pas trop fort, hein, pour ma fille. On n'aime pas les enfants négligents. Et c'est quoi un enfant négligent ?
C'est un enfant qui oublie de rire.
Exactement. C'est un enfant qui oublie de rire. Hein? Alors, on peut mourir, mais il faut mourir vivant, très vivant. Mais avant, tout est à toi. Il faut que tu goûtes à tout, à tous, à toutes. Et après, tu peux mourir.
Oui, il faut goûter à tout.
À tout. On peut se moquer de la vie ?
Ben non, on peut pas.
Ah non, on peut pas se moquer de la vie.
Maman ?
Oui ?
Je suis pas assez couverte.
Bah oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai amené un pull. On le met maintenant ?
Oui, allez.
Allez. Ah oui, moi, c'est ce que je me suis dit. Je t'ai vu partir, je me suis dit, elle est pas assez couverte, celle-ci.
Et on vient d'écouter un extrait de Ponette, Victoire Tivisol et Marie Trintignant. On est toujours sur Radio Campus Paris, hors champ spécial Jacques Doyon, à propos de la sortie de 9 DVD en coffret.
Oui, le pullover rouge, le fameux pullover de la mère de Ponette, c'est un peu votre séquence hors-dette, Jacques Doyon.
Oui, mais ça oui, d'ailleurs, j'avais pas vu le film depuis très longtemps et j'ai eu envie de le revoir après, parce que je voulais certainement pas le voir avant. Mais c'est vrai qu'on a envie de ça avec le cinéma. On a envie une fois de toucher à ça, de relever les morts.
Parce que Ponette, pour expliquer, c'est l'histoire d'une petite fille dont la mère vient de mourir dans un accident de voiture et qui est obsédée par cette mère qui ne veut pas l'oublier, qui veut la chercher, qui va finalement aller la chercher au cimetière et la faire apparaître par sa foi.
Oui, aussi parce que elle a 4 ans, et que 4 ans, la mort, on ne sait pas très bien ce que c'est. À partir de 5 ans, en résumé, hein, à partir de 5 ans, on n'en sait pas plus que nous, d'ailleurs, que nous, adultes, on sait que ça se termine, voilà. À partir de là, on fait des choix, il y a un truc après, il y a un truc qui ressemble à ça, où il y a... Bon, en fait, comme personne n'en est revenu, ça fait que on sait pas trop ce qui se passe, à supposer qu'il se passe quelque chose après. Mais jusqu'à 4 ans, l'enfant sait pas trop ce que c'est. La mort, c'est juste un abandon. C'est juste une mère qui était là et qui n'est pas là. De là, bien entendu, les pleurs si violents des nourrissons lorsque, par exemple, la mère les quitte parce qu'ils ont le sentiment d'un abandon. Ils ne peuvent pas imaginer que la mère va revenir. Voilà.
Sauf par les jeux. justement.
Oui, bien sûr. Alors là c'est une enfant de 4 ans. On lui explique que sa mère est morte et donc ça signifie qu'elle ne reviendra pas. Et quoi, ma mère ne va pas revenir. C'est quoi cette histoire de... Ma mère, là, à 4 ans, j'ai compris que je ne suis plus nourrisson, mais j'ai compris que finalement, ma mère, elle me revenait toujours. Elle revenait toujours à moi. Et donc, l'idée, c'est de la faire revenir à elle. Voilà. Donc, il fallait bien que j'en fasse par là. Voilà.
Mais elle revient pour partir. Elle revient pour dire au revoir.
Elle revient pour dire au revoir et elle revient pour dire... Tu vas pas passer ta vie à te lamenter, c'est à supposer que si y a cette vie-là, il faut que cette vie-là soit vivante. Voilà. Donc, et ça me paraissait bien sûr intéressant d'avoir une mère très vivante, enfin une femme très vivante. Comme je ne parle pas là du fantôme, mais je parle comme Marie Trintignant comme personne plus vivante, c'est. Ouais. C'était, il faut parler à l'imparfait, mais j'ai envie de dire encore c'est vraiment difficile d'imaginer plus vivant que Marie.
On entendait sa voix d'ailleurs, on l'entend, ouais. On l'entend dans sa voix. Est-ce que ça a été un choix, ça s'est posé comme un choix de d'écrire cette scène de retour d'une morte, alors que effectivement votre cinéma est plutôt, je ne sais pas comment on le décrit, mais enfin on n'a pas.
J'avais pas le choix, voilà. C'était pas un choix, c'est que je n'avais pas le choix. C'est exactement c'est un peu la même chose, mais je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que cet enfant me paraissait avoir une si belle ardeur, me paraissait celle qui, si quelqu'un méritait quelque chose dans Fils Humain, c'était bien elle. Alors.
C'était un cadeau à Ponette.
Oui,
alors.
C'était le cadeau. J'aurais voulu ne pas écrire cette scène. Je suis pas certain d'être un homme de beaucoup de foi, donc peut-être dans l'être humain certains jours et dans les comédiens certains d'autres jours, mais en tous les cas je suis un homme de bien peu de foi, ce qui fait que je peux pas écrire ça, c'est quand même ça ne peut pas contre mes convictions religieuses, c'est pas ça, c'est que et puis je pouvais pas écrire autre chose, voilà, je veux dire, sinon le film n'existait pas. Deux trois personnes autour de moi ont dit mais enfin c'est tu là, tu sombres dans le ridicule, tu y vas. J'allais vers quelque chose qui... j'avais pas le choix. Il me fallait cette scène-là, sinon il n'y avait pas de film, sinon je ne tournais pas le film. De même que je pense que Ordet, je pense qu'il le savait depuis le départ. Le vieux
Dreyer,
qui n'était pas si vieux que ça à ce moment-là d'ailleurs. Je pense qu'il n'y avait pas le choix, et je pense qu'on a envie d'y aller, que aussi c'est un jeu, le cinéma, donc on a le droit de jouer avec ça. On vit avec des fantômes dans la tête, on vit avec des morts souvent très très vivants dans nos têtes. Pourquoi on s'amuserait pas? C'est quand même mieux qu'un effet spécial, hein, mais ça en est un énorme d'effet spécial aussi, de se dire tiens, celui-ci, celle-là, on va la faire se redresser.
Mais est-ce que c'est pas un cadeau à Ponette et à l'actrice Victoire Tivisol du cinéma, c'est-à-dire lui dire voilà, tu nous as donné tout ça, tu as vraiment joué. D'ailleurs, elle a eu un prix à Venise pour un prix d'interprétation. Alors le cinéma te donne aussi quelque chose, enfin.
Oui, ça c'est dans un second temps, on peut se dire ça et vous pouvez vous dire ça effectivement, mais dans un premier temps, c'était je peux pas la laisser, l'enfant, dans cet abandon là, voilà, je n'y arrive pas, l'enfant là ne pleure pas, mais c'est comme de se dire voilà, l'enfant pleure à côté, sa mère est partie en laissant les clés sur la porte, je suis pas là pour ça, je suis pas son père, je suis pas sa mère, mais je vais, si elle est, je, voilà, les clés sont sur la porte, j'ouvre la porte, puis je vais jouer avec l'enfant pour que l'enfant aille mieux et cesse de pleurer et pense que sa mère va revenir bientôt, voilà.
Mais j'ai pas le choix. Dans vos autres films, notamment Le Petit Criminel, le réel arrive comme un mur qui bloque l'imaginaire. Le Petit Criminel n'arrête pas de rêver, il dit que la vie pour lui, il aimerait que ce soit ça. Mais à la fin, il y a quand même un mur qui...
Le flic dit à la sœur, ce serait dégueulasse de le laisser croire qu'il peut faire ses conneries et qu'il ne sera pas
puni.
Oui,
mais en même temps, il est allé au bout de ce qu'il souhaitait faire. C'est-à-dire, il est allé rechercher, croit-il, son père, il trouve une sœur, c'est pas rien. Il a changé d'identité.
Il change de nom pour elle.
Il change de nom pour elle. Finalement, qu'il fasse un séjour dans un lieu un peu clos pendant quelques temps, c'est pas si grave parce que lui, il va beaucoup mieux. Il va mieux et quand il sortira, il sortira avec la conviction que voilà, qu'il a une sœur, qu'il a une sœur qui est capable de l'aimer, qu'il a un nouveau nom. Je fais pas des films où il y a toujours une espèce de comme ça d'avenir radieux qui guette voluptueusement tous les personnages, mais j'aurais du mal à faire des films où il y a pas de. Enfin, si vous tournez avec. Avec des enfants, il y a quand même tellement de lumière là, vous ne pouvez pas passer votre temps à l'éteindre, la lumière de l'enfance. Donc, vous êtes bien obligé, heureusement, de faire avec. Et si vous tournez plus souvent, le plus souvent que vous pouvez avec des enfants, et aujourd'hui, j'ai bien du mal à tourner avec, d'ailleurs, parce que les télévisions ne me donnent pas l'argent pour ça, mais c'est bien parce que tout à coup, là, il y a quelque chose qui est tellement formidablement lumineux que naturellement, comme un vieil insecte, vous allez vous précipiter vers cette lumière-là parce que vous n'avez pas le choix. Donc, ce film-là, je regrette de ne pas avoir fait plus de films avec les enfants parce que c'est tellement plus. Enfin, il me semble de temps en temps, je sais que c'est un discours seulement, mais que c'est tellement plus immense. Ce qu'il y a à filmer, ça paraît aberrant de voir pour moi des filmographies des cinéastes qui n'y sont jamais allés du côté de cette immensité-là. Comme si vous disiez, oh là là, la mer, c'est vraiment tellement terrible, je vais rester sur le bord de la plage et je vais regarder de loin parce que ça me fait un peu peur.
Mais pourquoi on ne vous laisse pas y aller? Est-ce qu'on peut parler quand même un peu des conditions de production aujourd'hui?
On vous laisse aller nulle part, de toute façon, si, on vous laisse aller vers le divertissement, puisque là, le service public ne fait pas beaucoup mieux que TF1 et que la 6. Hein. L'idée, c'est de faire de l'audience. Donc, d'imaginer que ce qui marche le mieux, c'est le divertissement, c'est que les gens sortant du boulot ou sortant du chômage, si on peut sortir du chômage, enfin, qu'il faut plutôt les divertir à 21h. Et toutes les télévisions, toutes les chaînes confondues sont plutôt d'accord pour ça. Donc, il n'y a plus d'argent pour faire autre chose. Et le cinéma aujourd'hui, il est financé à 90% par la télévision. Donc, à moins de faire des films en DVD chez vous, entre votre salle de bain et votre cuisine, c'est des films à faire, ça devient rudement compliqué de faire des films. Alors, sur l'enfance, je dirais, je ne pourrais plus tourner Ponette, c'est évident.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aucune télévision, là, il y avait Canal+, dans sa période faste, Canal+, n'irait plus. Je ne pourrais pas tourner La Drôlesse, je ne pourrais pas tourner La Vie de Famille, tous ces films-là, je ne pourrais pas les tourner.
C'est petit clair, frère, ouais. D'ailleurs, est tourné en.
Peut-être Petit Frère est tourné dans des conditions. Et souvent, c'est des films qui sont tournés avec bien peu d'argent. Hein, et je ne me plains pas du bien peu d'argent. Je pense que si on veut beaucoup d'argent, ben, on fait les films, non pas des autres. Je suis méprisant d'un seul coup, c'est absurde. On fait les films de divertissement. Là, on est dans une industrie qui est une industrie en plus qui doit rapporter de l'argent à cette télévision. C'est-à-dire que si ils pensent parfois à tort que ces films font de l'audimat, ça veut dire que les annonceurs, tout à coup, sont prêts à payer très cher pour entrer au milieu ou devant ou derrière ces films-là. Donc, en fait, c'est les annonceurs qui financent le cinéma d'une certaine manière. Donc, c'est Coca-Cola, comme le disait le patron de TF1.
Et le temps de cerveau disponible.
Oui, mais le type de la une dise ça, je le comprends. Je suis étonné que les gens du service public, pour une part, ne l'avouent pas, parce que finalement, quand on voit la programmation de la 2 et de la 3 souvent, et quand on voit les films qu'ils coproduisent, à une très grande majorité, c'est des films qui manquent totalement d'intérêt et d'ambition.
Oui, le cinéma n'a toujours pas trouvé de guichet, enfin autre. Que la télévision, pourtant Canal+ ne finance pas.
On a eu une période faste entre 85 et 2000 où effectivement il y a eu à la tête de Canal+ des gens comme Rousselet et puis Lescure qui eux avaient de l'intérêt aussi pour ça. Ils ne produisaient pas que ça, ils produisaient de façon minoritaire ce cinéma-là, mais ils étaient d'accord pour penser que c'était de leur curiosité, de leur devoir, de leur intérêt de faire ce cinéma aussi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà. Donc, il va falloir qu'on renaisse de nos cendres.
Vous avez, mais c'est vous qui avez réalisé tous les bonus de vos DVD ?
Oui, pour des raisons, parce qu'il me semblait que j'avais plus de temps, puisque là j'étais sans travail, donc j'avais du temps. Par ailleurs, c'était 9 films avec des producteurs très différents, et jusqu'au bout, on a un peu tremblé en se demandant si on allait réussir à faire signer tout le monde, si tous les producteurs allaient nous accorder ces films. Alors, c'était plus simple et moins cher de les faire... de faire ses bonus tout seul dans son coin, voilà, ça nécessitait, c'est une économie de moyens qui était autre qu'une équipe qui aurait très rapidement filmé tout le monde, et on aurait peut-être retardé un peu ce tournage-là, parce qu'on se serait dit, attendons que tout le monde ait vraiment signé, attendons que d'être certain de faire le film, et à ce moment-là, ça serait fait certainement très rapidement. Alors, effectivement, ça me paraissait un peu extravagant d'être dans une espèce de contre-champ et de temps en temps de dialoguer avec des gens que je voulais filmer en parlant de mes films, par assez d'une vanité folle et aberrante. Mais j'avais pas le choix. Voilà.
C'est comme par exemple Caroline Champetier, Philippe Garrel ou Jean-Pierre Léo qui viennent là. On peut écouter un petit extrait d'ailleurs de Caroline Champetier.
Peut-être un film impossible à faire. Alors impossible pourquoi ? Moi j'ai passé par exemple 3 mois, je crois, 30 cm du sol, parce que comme ce que Jacques aime, c'est plutôt la contre-plongée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui donne à la fois plus le mouvement du corps, plus la sensualité et évidemment plus le regard. Eh bien, il fallait que je sois plus petite que les petits. Donc, il fallait être... J'étais à genoux sur la dolly, le cul en l'air, dans une espèce de mouvement de serpent. Parfois, on a enterré la caméra. Et donc, il y avait des choses impossibles. On disait « c'est impossible » comme on dit de « c'est impossible ». Et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver. On y est arrivé.
C'est donc Caroline Champetier qui parlait sur un bonus de Ponette, du film qu'elle a éclairé. Et très bien éclairé d'ailleurs, parce que c'est une des choses dont on n'a pas parlé. Mais la lumière de vos films, même si c'est l'acteur qui prime, est vraiment souvent très belle, notamment dans Petit Criminel ou dans Ponette. On a l'impression qu'il y a un travail de cadre quand même, et de précision et de beauté qui met très bien en valeur.
Oui, il y a la qualité de ces opérateurs, et puis il y a aussi le fait que là, pour terminer sur une presque pitrerie, enfin, la lumière vient quand même beaucoup des acteurs, et là, quand vous tournez avec du côté de l'enfance, la moitié du travail de lumière est déjà fait.
En tout cas, on vous recommande non seulement les bonus dont on a pu entendre quelques extraits, hein. Il y a énormément de réalisateurs avec lesquels vous entretenez, mais aussi des gens qui ont fait la musique avec vous,
le son, la lumière. L'image. Oui.
Et puis, on a ce petit plaisir de retrouver certains des acteurs.
Notamment les enfants qu'on voit parler des films avec peut-être un peu de nostalgie que vous ne semblez pas du tout avoir dans vos films sur l'enfance, et c'est ça peut-être qui fait la particularité de vos films, c'est que contrairement à d'autres cinéastes qui filment l'enfant comme une terre nostalgique, vous voulez filmer complètement au présent et dans le brut de l'action de l'enfance et dans son désir.
Et ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai parlé avec des gens, nos films préférés sont comme par hasard ceux pour lesquels au moment de la sortie on avait l'âge de l'enfant qui est dans le film. Moi par exemple, La vie de famille, j'ai regardé, j'avais 10 ans en même temps que Mara Goyer, etc. Et donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre.
C'est-à-dire qu'il faudrait, enfin pour terminer, souvent il y a une séparation qui est faite entre, voilà, il y a l'enfance, puis tout à coup il n'y a plus l'enfance. Chez les pires des adultes, c'est vrai, mais chez les moins minables, la part d'enfance est toujours là. Je veux dire, si on est ce qu'on est, c'est parce que on n'a pas réussi heureusement à quitter cette enfance-là, et parce que cette espèce de noyau dur et souvent intransigeant d'enfance est en nous. Moi, si j'ai pu faire des films, c'est parce que dans ce moment-là, je tenais très fortement la main du garçon très petit que j'ai été. S'il n'avait pas été avec moi, j'aurais jamais fait un film.
Bon, on vous remercie beaucoup, Jacques Vaillant. L'émission se termine, malheureusement. On aurait aimé encore parler longtemps avec vous.
Je reviendrai.
Les DVD, donc Shorts et MK2, on va tous les citer au moins une fois. Ponette, un sac de billes, La drôlesse, La vie de famille.
Petit frère.
De 15 ans, Le petit criminel, Les doigts dans la tête, Petit frère. Et le dernier que j'ai oublié,
le
c'est
jeune
Ponette. Et le jeune Werther. Oui, Ponette, j'ai dit. Le jeune Werther, voilà.
Donc, chez MK2, DVD.
Films. Voilà, donc ce hors-champ se termine. Merci énormément, Jacques Toyon.
Merci à vous.
Et à bientôt pour votre prochain film.
Oui, à bientôt. Oui, j'espère.
In most sex films, however, the viewpoint is strictly male. They're written by the male, directed by the male, and seen by the male.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.